Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais partager avec vous en français ma passion, l'aéronautique. Et tout ceci commence par une anecdote troublante qui m'est arrivée il y a quelques années, lorsque un ami me contacta, étant passionné d'aviation et habitant Toulouse. Il avait trouvé des pièces d'avion dans la terre, au sud de Toulouse, et il me demanda de les identifier. Donc rapidement, je mis des photos de ces pièces sur un site internet spécialisé. Rapidement, les réponses arrivèrent. On me dit ce sont des pièces d'un avion anglais. Et d'autres réponses suivirent. On me dit c'est un Avro Lancaster, donc un bombardier anglais quadrimoteur, qui en 1944 fut abattu au sud de Toulouse. La personne avec qui j'étais en relation me mit en contact avec une retraitée, Arlette, qui connaissait très bien l'histoire de cet avion. Arlette me raconta qu'elle s'était en effet occupée d'accueillir les familles des membres d'équipage de cet avion anglais, qui était mort dans le crash, et elle précisa qu'elle avait rencontré un Français qui avait 15 ans pendant la guerre et qui avait été témoin de ce qui s'était passé. Et Arlette me dit, cette personne doit pouvoir t'amener des éléments intéressants, je vais te mettre en contact avec lui. Et Arlette me mit en contact avec René, qui était mon voisin 25 ans plus tôt, qui habitait la maison d'à côté lorsque j'étais un jeune marié avec des enfants très jeunes. Et René me raconta en effet que pendant la guerre, il avait vu des morceaux de l'avion qui avaient été pulvérisés partout dans le quartier, y compris sur son terrain. Et donc je lui dis, mais René, s'il y en avait sur votre terrain, est-ce que je peux jeter un œil? Est-ce que je peux chercher? Donc René me dit, il n'y a pas de problème. Et je commence à regarder dans le jardin de René, et en effet, je trouve des pièces de l'avion. Donc c'était très troublant. Et l'idée m'est venue, je me dis, René, s'il y a des pièces sur votre terrain, là où moi j'habitais 25 ans plus tôt, il y en a peut-être. Donc René me dit, mais écoutez, la personne qui a acheté votre maison est quelqu'un de très sympathique, je vais lui en parler, et à mon avis, il devrait être d'accord. Revenez dans 3 semaines. 3 semaines plus tard, je reviens dans ma maison. Ancienne maison. Et là, c'est une expérience très troublante parce que une maison, vous vous en souvenez. Donc, je redécouvre l'intérieur. Le nouveau propriétaire, charmant, m'accueille, me montre les travaux qu'il a faits, m'invite dans son jardin, mon ancien jardin. Et je me retrouve en effet à chercher des pièces dans mon jardin. Et là, je trouve cette montre Goussé magnifique. Et là, deux possibilités. Soit elle est à quelqu'un du quartier qui l'a perdue, soit il était un des membres de l'équipage de l'avion anglais. Mais comment savoir? Le hasard faisant bien les choses, il me met en contact à ce moment-là avec une personne qui est passionnée d'horlogerie, qui démonte la montre, qui me fait un rapport d'expert, et dont deux indices concordants, le fait que ce soit une montre suisse qui vendait à la Royal Air Force avant la guerre, et le fait qu'elle ait subi une intense chaleur, montrent assez clairement que c'était une montre d'un des membres de l'équipage qui était sous mes pieds 25 ans plus tôt. Voilà, cette anecdote est pour vous montrer combien cette démarche d'archéologie aéronautique peut être troublante, interpellante et belle aussi. Et nous allons rentrer maintenant dans la démarche elle-même. Qu'est-ce que c'est que l'archéologie aéronautique? Ça consiste à trouver des pièces d'avion, vous voyez? Comme celle-là par exemple. Puis, les faire parler. Vous voyez, sur celle-ci, il y a un chiffre. Ce chiffre va dire des choses. Ensuite, on va reconstituer l'événement. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était un combat? Est-ce que c'était pendant l'entraînement que l'avion est tombé? Est-ce que le pilote a survécu à sauter en parachute? Est-ce qu'il est mort? On va essayer de reconstituer l'histoire. Puis, on va partager nos résultats, ce qu'on a trouvé en publiant, en écrivant, en faisant des conférences, en faisant des expositions. Une façon de faire revivre des avions oubliés finalement. Comment on va retrouver des pièces d'avion? On va aller sur un site où un avion s'est écrasé, et en l'occurrence, typiquement, c'est le témoignage humain qui va nous mettre sur la piste. C'est un paysan qui avait 15-20 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, qui se souvient qu'un avion est tombé là, qui peut nous l'indiquer. On va aussi le valider avec des archives. On va plonger dans les archives et on va chercher les endroits où un avion peut être tombé. Les photos nous parlent. Vous voyez cet avion qui brûle. Le voici ici. On voit très bien la trajectoire qu'il a suivie. Et cette photo nous montre l'emplacement où on va trouver des pièces d'avion. La photo aérienne est très utile. Aujourd'hui, il y a un site, Géoportail, sur lequel vous pouvez gratuitement regarder des photos datant de 1946-47. Car au sortir de la guerre, une grande campagne photographique a été menée. On a fait une espèce d'état des lieux de la France, pour voir comment elle était. Et donc, de nombreuses photos en noir et blanc sont disponibles. Et sur une photo aérienne de 1946 ou 1947, vous pouvez voir le point d'impact de l'avion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, parce que la végétation a repoussé. Mais à cette époque, vous pouvez distinguer. Et ça vous permet de valider avec certitude l'emplacement où l'avion est tombé. En l'occurrence, ici, sur la photo de droite, vous avez une forêt. Et dans la forêt, il y a un trou blanc, c'est un endroit où il n'y a plus d'arbres, parce qu'un avion s'est abattu là. Donc en 1946, les arbres n'ont pas eu le temps de repousser. Et vous êtes certain ici que l'avion est tombé à cet endroit-là. La recherche des pièces. Parfois, dans des endroits reculés, vous pouvez les trouver posées par terre. Cela peut arriver encore. Mais la plupart du temps, c'est quand même en creusant. On va chercher dans la terre les pièces d'avion. Et on va les faire parler. Quand on trouve des pièces, on les nettoie. Et parfois, quand on a de la chance, on les fait parler au sens étymologique du terme. Vous voyez ici à gauche, il y a écrit, on devine, landing gear, train d'atterrissage. C'est un avion américain. À droite, Starter Nunwehrmaschinen Start. Frei, pardon. C'est un avion allemand. Ici, sens de rotation de la pompe. Nous avons un avion français. Les chiffres nous disent des choses aussi. Vous voyez, sur cette petite plaquette qu'on avait trouvée au milieu de pièces d'avion qu'on n'avait pas identifiées, on devine D520. D520, on sait tout de suite que nous avons affaire à un 2-Wattin 520. Un chiffre peut nous révéler beaucoup de choses. Ici, vous voyez, on a ce qu'on appelle un macaron, c'est le signe du pilote. Et au dos du macaron, il y a son matricule. Le matricule, c'est l'homme. Et l'homme, le voilà, c'est le pilote de cet hydravion. Le Graal du chercheur, c'est cette petite plaque en métal qui est sur chaque avion. Chaque avion est numéroté et porte une plaque comme ça. C'est l'ADN de l'avion. Il y a le numéro de l'avion, il y a sa date de fabrication et il y a son modèle. Donc cette plaque-là, en l'occurrence, nous a permis d'arriver à cette photo. Nous sommes certains que cette plaque était sur cet appareil. Maintenant, nous allons reconstituer l'événement. Comment on va faire pour savoir ce qui s'est passé? On va d'abord écouter les acteurs, les témoins, les faire parler et noter ce qu'ils nous disent. Puis, partant de ces témoignages, nous allons continuer la recherche avec l'ordinateur. Internet est une source extraordinaire d'informations. Il y a des forums sur lesquels les experts du monde entier se promènent avec leur savoir, leurs archives. Il suffit de leur poser des questions. On va jeter des bouteilles à la mer sur ces forums en disant: connaissez-vous l'histoire de tel pilote? Pouvez-vous me donner des informations sur tel avion? Et de façon très surprenante, il y a des gens qui vous répondent des quatre coins du monde et qui chacun vous amène une pièce du puzzle. Et vous reconstituez le puzzle, et ainsi l'histoire prend forme. Et vous savez ce qui s'est passé. Cette discipline est menée par trois principes qui sont très importants. Des principes fondamentaux qui sont petit 1, la mémoire, petit 2, le respect, petit 3, le partage. Alors on va développer la mémoire. Nous faisons ça pour la mémoire. La mémoire, c'est les navigants, ces pilotes qui ont été oubliés et qu'on essaye quelque part de faire revivre. Donc, la mémoire de ces hommes. Ensuite, le respect du site. Le site où un avion est tombé, souvent, c'est un endroit où un homme est mort. Donc, c'est un endroit qu'on va traiter comme un sanctuaire. C'est un endroit où on va aller avec respect et dont on ne dévoilera pas le positionnement exact pour éviter que d'autres personnes s'y rendent. Le respect, c'est aussi le cadre éthique et juridique. Il n'est pas question de faire une recherche si on n'a pas toutes les autorisations administratives en amont. L'autorisation du propriétaire du terrain, l'autorisation du service archéologique adéquat. Alors, ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire, vous voyez, c'est l'enrichissement personnel. Malheureusement, cette pièce-là, ces pièces d'avion commencent à avoir de la valeur. Les gens aujourd'hui achètent ce genre de choses. Et on voit malheureusement un business, de l'argent s'en mêler. Vous voyez, sur le Bon Coin, sur eBay, on a des gens qui commercialisent des pièces d'avion. C'est exactement ce que nous ne voulons pas faire. Ce que nous voulons, c'est le partage. Nous, on veut faire revivre des avions et des hommes qui ont été oubliés. Donc, on raconte leur histoire en publiant, en faisant des expositions. Un détail agréable que je tiens à souligner, c'est que, très sincèrement, chaque fois, lorsque vous arrivez chez quelqu'un, vous êtes très bien accueilli parce que vous faites revivre l'histoire de son terrain, de son pays, de sa région. Et donc, il est ravi de vous ouvrir ses portes. Et la plupart du temps, ce sont dans des cadres magnifiques. Je dirais que peut-être que la dimension la plus gratifiante de cette discipline, c'est l'émotion. C'est retrouver des personnes, des acteurs ou des descendants, des enfants, des petits-enfants, des neveux, qui ne savaient pas ce qui s'était produit, qui n'étaient pas au courant de l'accident de leur grand-oncle, de leur grand-père. Et lorsqu'on va les voir, on leur explique ce qu'on a trouvé, qu'on leur raconte l'histoire qui s'est déroulée, clairement, ça leur permet de faire le deuil, de boucler la boucle, et il y a une reconnaissance très forte et une émotion énorme qui se dégage de cette rencontre. Et quelque part, nous donnons du bonheur aux gens. Et je pense que c'est ça la dimension la plus noble et la plus belle de cette discipline. Alors, j'ai terminé par une anecdote réelle qui s'est passée en Bretagne, où il y a quelques années, j'ai rencontré un monsieur âgé, Jean, qui m'a raconté que lorsqu'il avait 15 ans, il avait vu un avion anglais, un Mustang, attaquer un train allemand. Voilà l'avion. Et lui, 15 ans, a vu l'avion s'écraser. Il arrivait en courant, il a vu l'épave, il a vu le corps du pilote qui était mort à côté. Ça l'avait énormément marqué, bien sûr. Et il se rappelait exactement de l'endroit où l'avion était tombé. Donc il m'a emmené à cet endroit, où on a regardé, et très rapidement, on a en effet trouvé des pièces de cet avion. Et en particulier, nous avons trouvé un objet très symbolique, très émouvant, qui est la montre du tableau de bord. La montre qui s'est arrêtée quand ce pilote anglais est mort. Et Jean m'a donné la date. Il avait appris que le pilote était un jeune papa. Et l'idée est venue de chercher le fils du pilote. L'idée, c'était de se dire que si en 1943, le fils du pilote avait 1 ou 2 ans, il y avait de fortes chances qu'il soit vivant aujourd'hui. Donc nous avons envoyé des messages en Angleterre. Et rapidement, donc, on a retrouvé l'identité du pilote, l'escadrille, et on a cherché le fils du pilote. Et 2 ans plus tard, nous avons reçu un mail d'une Anglaise qu'on ne connaissait pas, qui nous disait « Cher monsieur, j'ai vu votre demande et la personne que vous cherchez est mon père. Il est à Oxford, il est très intéressé par vos recherches. Voilà ses coordonnées, vous pouvez rentrer en contact avec lui. » C'est ce que nous avons fait. Et le fils du pilote, d'abord, nous a envoyé une photo de son père. Et donc, on a pu voir à quoi ressemblait le pilote. Et le fils du pilote, très rapidement, nous a dit « Je veux venir vous rencontrer, vous et Jean. Organisez-moi une rencontre. » Donc, c'est ce que nous avons fait. Et il est arrivé, vous voyez, il est à gauche avec son pull bleu. Mais il est arrivé, il n'était pas seul. Il y avait 3 voitures, ils étaient 13 personnes, c'était toute sa famille. C'était devenu un pèlerinage familial. Et donc, Jean nous a emmenés à l'endroit où il avait vu le père de ce monsieur mourir, et nous avons tous été à cet endroit-là. Et Klim, c'est son nom, le fils du pilote, Klim expliquait à ses petits-enfants ce qui s'était passé, qui était son père. C'est un moment très très fort. Juste après, nous avons été à la mairie du village d'à côté où nous étions attendus. Madame le maire était là, le conseil municipal, les anciens combattants. Et Madame le maire avait fait installer une plaque à la mémoire de ce pilote sur le monument aux morts. Et c'est le fils du pilote lui-même qui l'a dévoilé. Enfin, je voudrais terminer sur cette photo, parce qu'elle est très symbolique à mes yeux et émouvante. Voilà, à gauche, vous avez le fils du pilote, à droite, son propre fils, et au milieu, le pilote. Donc vous voyez le père et le grand-père et le petit-fils. Et la ressemblance est frappante, et il me semble que cette image est belle, parce qu'elle montre combien le lien humain est fort et beau, et partant d'une pièce d'avion, grâce à la technologie moderne, on réussit à réunir des générations, à reconstruire l'histoire et à faire revivre des navigants, des pilotes qui ont été oubliés.